With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ce podcast a été produit par Binge Audio!
Salut, c'est Thomas Rozek. Dans la presse, on a l'habitude de parler de la criminalité organisée, mais on en parle rarement avec les criminels, avec les mafieux, les voyous, les gangsters, appelez ça comme vous voulez. La plupart des confrères et consoeurs qui couvrent le grand banditisme parlent surtout aux magistrats, aux avocats, aux policiers. Mais il y a quelques exceptions. Notamment, Jérôme Pierra. Ça fait 25 ans qu'il suit la vie criminelle française, qu'il la documente dans des articles, dans des livres, dans des films, dans des BD. Il décrit de l'intérieur les multiples visages du milieu, comment il a vécu le passage du milieu à l'ancienne avec ses codes et ses rites au milieu contemporain, celui des cités, du trafic de stupes, comment il est devenu le meilleur ami de l'ennemi public numéro 1, comment il s'est retrouvé lui aussi en garde à vue pisté par la police, comment il a été pris en affection par un des boss de la mafia japonaise et comment il a réussi à garder en permanence son œil d'observateur malgré les critiques, les risques et la lassitude. Une vie avec les voyous qu'il a accepté de me raconter et dont on va retracer le chemin parfois sinueux dans les 7 prochains épisodes. C'est Mathieu Thévenon qui réalise cette série dont voici tout de suite le premier volet. Bienvenue dans Programme B.
Comme disait ma mère, il a le sirop de la rue. Alors ça va déjà te donner une petite, un début d'explication. J'ai grandi dans le 93, dans les années 70, banlieue rouge et tout, il y avait pas mal de petits loulous voilà, qui traînaient la pavée. J'aimais bien leur compagnie, bon voilà, c'était les copains de l'école, etc. Voilà, donc il y a eu déjà les grands frères et tout, il y avait toujours un petit peu, voilà, comme je dis, le sirop de la rue. Et puis j'avais un père, mon défunt père était un monsieur assez particulier, qui n'est pas du tout voyou, mais qui avait une vie quand même assez chaotique. Il avait été catcheur à la Foire du Trône, légionnaire, etc. Il avait beaucoup de copains un peu atypiques, etc. Donc j'aimais bien les histoires de marge, de bas-fond, de... Voilà, je me suis laissé bercer par ça. J'avais Pierre Belmar à la maison qui me racontait ça. Non, mais en gros, c'était ça. Et donc voilà, je pense que c'est une conjonction de tous ces trucs qui ont fait que, depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été intéressé, passionné, pas fasciné. J'ai jamais eu d'illusion sur la réalité de ce monde, etc. Mais ça m'a toujours intéressé, voilà. Et donc, à un moment, je me suis dit, soit je fais le voyou, soit je fais le policier... Ni l'un ni l'autre ne me convenait. Je me voyais mal mettre des mécotes rouges. Je suis pas assez méchant et malhonnête pour être voyou. Je me suis dit, je vais faire observateur neutre, journaliste. Et puis j'ai un grand frère qui a... Et j'ai eu la chance qu'il me confie quelques lectures. Au bagne d'Albert Londres, les bas-fonds de Berlin, les nuits de Montmartre de Kessel et Panorama de la Pègre de Sandrard. Ça a été ma trilogie. Et c'est 3 journalistes qui écrivent en immersion dans le milieu. Ils suivent les voyous, etc. etc. Je me suis dit, bingo, c'est ça que je veux faire. Il y avait 2 choses. Il y avait je préfère voir le loup plutôt que celui qui a vu le loup. Donc à faire, hein, autant que l'info soit un peu plus directe. Bon, voilà, autant s'éviter des intermédiaires, même si les policiers, le monde judiciaire, les magistrats, les avocats, etc., sont évidemment d'énormes sources et des fins observateurs de ce monde-là. Bon, rien ne vaut d'aller voir en direct, voilà, l'intéressé. Au-delà de l'info pure, souvent les types qui travaillent en police-justice, c'est pour avoir de l'info sur un dossier précis, pour faire leur papier sur Schmoldu, Pierre, Paul, Jacques, telle affaire, etc. Moi, c'est moins ce qui m'intéresse. Moi, je ferais plus de la, modestement, de la sociologie ou de l'anthropologie, finalement, du crime organisé. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne. C'est plus le systémique, c'est plus les mentalités, c'est plus comment fonctionne ce monde, cette société, etc. Donc, évidemment, bah, j'ai trouvé ça plus intéressant de faire de l'anthropologie sur le terrain et d'essayer d'aller voir ces sujets-là et d'en tirer quelque chose. Avec toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire que, bah, évidemment, leur parole n'est pas d'or non plus. Enfin, c'est comme dans tous les sujets que vous allez interroger dans le cadre du journalisme. Voilà, il faut peser le pour le contre de ce qu'on vous dit, pour quel intérêt il a à vous parler, etc. Et puis, il y avait un petit côté, je vais pas te cacher, un peu d'adrénaline, quoi. Voilà, qui est un peu moins plan-plan que d'aller voir un flic syndicaliste dans un bureau, même si je l'aime beaucoup, ou un avocat ou un magistrat au café du coin. Voilà, bon, voilà. Il y a d'un côté pour moi un travail de bureau qui est souvent celui du travail de police-justice. Hein. Bon, aller interviewer, voilà, des professionnels sur la place de Paris ou ailleurs et mettre la tête dans des dossiers. Et puis moi, j'aime bien respirer le grand air et j'ai besoin de bouger. Alors, je préfère être dans la rue. Pour le coup, oui, ils vous accueillent pas les bras ouverts avec des banderoles de bienvenue. Alors moi, j'ai commencé par l'histoire du milieu. C'est-à-dire que j'ai fait des études d'histoire et j'ai travaillé comme un acharné et un taré sur l'histoire du banditisme parisien, marseillais, etc. Bon, la tête dans les archives, là, pour le coup, beaucoup. Mais en tout cas, pour me faire une vraie culture de la chose, donc j'ai commencé à aborder ce monde-là par ça. Bon, pendant des années, tout en ayant un pied dans la rue, voilà, puisque je gardais mes amitiés du 93, etc. Donc j'essayais de quand même avoir cette petite touche actuelle. Et puis, j'ai appelé des gens. Ça vous paraît complètement débile, mais comme j'avais un annuaire total de tous les malfrats de France, morts ou enterrés, ou en tout cas incarcérés, vivants, j'en savais rien, j'ai pris mon téléphone. À l'époque, il y avait l'annuaire papier. J'ai pris mon petit téléphone et j'ai appelé les mecs. Voilà.
Vous êtes bien Bernard Madeleine ?
Alors, je leur disais pas ça, mais en substance, c'était...
Et vous êtes bien l'ennemi public numéro 1 des années 60, le mec qui a pris perpète pour tant de braquages, à Cognac, s'est fait tirer dessus par
Maurice Le Poisson, les mecs se sont dit, c'est un malade, obsessionnel. Voilà, il en sait plus que nous, ou alors c'est un ancien policier qui s'est rajeuni la voix quand il télé. Mais bon, voilà. Et donc, les types ont été interroqués, j'ai assisté pour en rencontrer beaucoup. Et c'était souvent, voilà, des vieux voyous à l'ancienne, ceux qui ont un peu disparu aujourd'hui, puisque c'était il y a une vingtaine d'années. C'était les derniers dinosaures du milieu traditionnel. Et ces types ont aimé discuter parce que, effectivement, j'en savais des fois beaucoup plus qu'eux, puisque eux ont travaillé, je sais pas, le type était braqueur à Marseille, il s'intéressait pas forcément à ses copains de Nantes, alors que moi, oui. Donc, du coup, je faisais des connexions. Bon, voilà. Donc, on a trouvé, évidemment, des terrains de discussion variés et nombreux. Et ces types se sont dit, tiens, ce jeune est un peu curieux de s'intéresser à ça de cette manière. Et on commence à me présenter les types, parce que les voyous, même s'ils sont vieux, ils ont toujours un pied là-dedans. Quand un type a passé 60 ans dans la criminalité, il n'a pas d'autres amis, généralement, que des voyous, des putes, des machins, des... Voilà, donc tout de suite, ils m'ont dit, bah, je vais te présenter mon fils spirituel, je vais te présenter mon ancien assos, je vais te présenter... Et puis, de fil en aiguille, bah, ça s'est rajeuni. Le fils spirituel, bah, lui, il avait plutôt 45 balais ou 50 ans, etc. Et puis, le milieu... La définition est juste, c'est-à-dire que c'est un milieu professionnel. Vous, au bout d'un moment, milieu des journalistes parisiens, vous allez connaître tout le monde. Bon, eh ben, chez eux, c'est pareil, encore plus, parce que c'est quand même plus restreint. Et donc, quand vous commencez à entrer dans ce monde-là, et que vous gagnez la confiance, évidemment, hein, si vous vous brûlez les ailes à la première rencontre, c'est mort. Mais si vous arrivez à accrocher là-dedans, vous allez passer de l'un à l'autre, on va vous présenter, et en 20 ans, bah, vous allez faire le tour. Après, la difficulté, c'est de renouveler les contacts, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, les gens des quartiers, c'est pas les mêmes que le vieux Corse, ou etc. Mais tous ces gens se rencontrent généralement en prison, etc. Alors, après, il y a plein de biais différents, hein, mais on va dire que le début, ça a maturé comme ça. Après, voilà, avec les années, il y a eu 1000 autres rencontres, et puis après, j'ai rencontré des gens de l'international aussi, etc. Bon. Et moi, bah, j'ai réussi à être adoubé, entre guillemets, dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on prend pour, non pas pour un voyou, faut surtout rester à sa place et jamais se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est le secret premier, hein, pas essayer de faire le dur ou la franchise, voilà, ça serait ridicule. Donc, moi, ils savent très bien que je suis un pauvre cave gentil. Mais ce que je pense qu'ils aiment bien, c'est que j'en ai les codes de ce monde. La mentalité quand il le faut, c'est-à-dire je comprends le coup de vis à trois bandes ou quand ils veulent, voilà, bon, en gros, c'est une manière de réfléchir un peu particulière, souvent, etc. Voilà, le vocabulaire, le mode de vie, je baigne là-dedans depuis tellement longtemps que, oui, j'ai l'impression de les connaître, ou de connaître leur vie. Et puis après, avec le temps... Il y a des amitiés aussi qui naissent, hein. Il n'y a pas que des sujets professionnels. C'est-à-dire que, on a beau s'en défendre. Enfin, je veux dire, je recherche pas spécialement la compagnie des mecs qui ont 25 ans de prison au compteur, mais, ou des casiers noirs comme le bras. Mais, forcément, dans les 200, 300, voilà, voyous que j'ai rencontrés, il y en a avec qui j'ai sympathisé et avec qui je suis devenu ami, parce que c'est comme ça dans la vie. Voilà, les types, vous choisissez pas forcément vos copains. Donc, en plus, je suis rentré voilà, dans la vie privée, peut-être la vie quotidienne. Si je vais les rencontrer au café pour une interview, forcément, je ne verrai pas le même type. Bon, bah, là, j'ai fait la communion, la bar mitzvah, le mariage, l'enterrement, le rose beef du dimanche, etc. Les stages pour leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas forcément des enfants malhonnêtes, donc ils cherchent des stages pour le boulot, etc. Donc, des fois, on m'appelle. Enfin, donc, j'ai appris à connaître la vie, le quotidien, voilà. Le milieu traditionnel, hein, moi, c'était celui pour lequel j'avais le plus d'intérêt, parce que bon, voilà, celui qui nous a bercés depuis notre enfance. Il était passionnant parce qu'il était folklorique, ce milieu-là. C'est-à-dire que c'était le milieu des surnoms, c'était le milieu de l'argot, c'était le milieu des mecs en costard, etc. Et ça existait encore. Alors, moi, il y a des types que j'ai connus, toute une frange comme ça, c'était mes vieux du Muppet Show à moi, voilà, du monde criminel. Mais il y avait, alors, ils sont quasiment tous morts ces dernières années. Alors, ils vivaient vieux parce que, comme on disait chez eux, la ratière, la prison, ça conserve. Et comme ils avaient fait des longues, longues années de prison, hein, ils étaient plutôt bien conservés. Donc il y avait, je me souviens, petit Louis le Nantais, que j'ai longtemps fréquenté. C'était un garçon qui habitait à Aubervilliers. Petit Louis le Nantais, il avait fait 28 ans plein de prison d'un seul coup. Pour des braquages, c'était le dernier survivant du gang des tractions avant.
Le gang des tractions, ça vous dit quelque chose? Eh ben le gang, c'est moi! Le chef, je suis là! Alors venez ben pagayer, bande de pédés!
Bon, alors, ça va pas parler aux plus jeunes, mais le gang des tractions avant, c'est une équipe de braqueurs qui a sévi au sortir de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui était composée d'anciens résistants, même d'un déporté, Dioatia, et d'anciens collabos, des types qui avaient travaillé avec les Allemands. Tout ce petit monde s'est retrouvé au sortir de la guerre. Ils étaient 4-5, ils ont fait une équipe et puis ils sont montés braquer des établissements bancaires, des petits fourgons, etc. à l'époque. Ils ont défrayé la conique, ils ont tapé à travers toute la France, etc. Et ils avaient comme particularité, enfin, eux parmi d'autres, d'utiliser un modèle de voiture de chez Citroën qu'on appelait la traction avant, voilà. Qui était une voiture assez sportive, puissante, utilisée par les voyous. Les flics, eux, avaient des voitures beaucoup moins puissantes, donc on disait, il y avait un adage de voyous qui disait « traction avant, police derrière ». Dans cette équipe, donc voilà, il y avait 4 ou 5 types, et puis il y en avait un qui s'est distingué, en tout cas que la mémoire collective a gardé, qui s'appelait Pierre Loutrel, dit Pierre ou le fou. Pierrot le fou parce que avant-guerre et pendant la guerre, il avait la gâchette facile, la pigale, il se trimballait avec une valise, avec une titine, comme on disait en argot, c'est-à-dire une mitraillette dedans. Enfin bon, il était bien allumé quand même quand il allait voilà boire des coups. Alors lui, il avait un parcours assez ambigu, hein. Il avait été collabo, après résistant à la libération, comme beaucoup, à la dernière minute. Et puis après, il rejoint le gang des tractions avant, il braque, et puis en fait, il va passer à la postérité parce qu'il va disparaître pendant un moment. Il va disparaître tout court, il va être tué, on va voir comment. Et ses complices vont pas le dire et vont lui attribuer de nombreux coups. Donc du coup, ça va devenir le type, l'espèce d'ennemi public numéro un, alors qu'il est enterré à l'époque sur une île de la Seine, dans le 78, là, dans les Yvelines, sur l'île d'Andrézy. Ses complices l'ont enterré. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont montés braquer une bijouterie dans le 8e arrondissement, près de la place de l'Étoile à Paris. Et Pierrot le fou... On n'a jamais su, soi-disant, selon les autres, c'est au moment où il remontait dans leur traction avec les sacs de bijoux, veut ranger son flingue, son calibre, comme on dit, à la ceinture, le remettre à la ceinture, il coupard, et il se fout lui-même une balle dans le ventre, et il va mourir faute de soins, et les copains vont l'enterrer clandestinement sur cette île, sans rien dire à personne, et la police va le chercher pendant des années. Bon, la version la plus probable, c'est que c'est un de ses complices qui a fait la mauvaise manip et qui lui a mis la baston. C'est son vieux copain qui s'appelait Dioatia, voilà, qui l'aurait tué accidentellement. Donc ce type, du coup, il y a eu toute cette affaire qui a suivi. Donc après, on a retrouvé son cadavre. Dans les journaux, voilà, ça faisait la une. On a retrouvé le cadavre de Pierrot le fou enterré. Donc voilà, donc c'est un type qui est effectivement passé à la postérité malfrate. Il y avait un noyau dur dans ce gang, ils étaient 4 ou 5, et puis il y avait comme ça des associés d'occasion, dont ce fameux petit Louis le Nantais, donc qui venait de Nantes, comme son nom l'indique, qui les avait rencontrés au sortir de la guerre. Et petit Louis, lui, il va sur un des braquages tuer un policier. Ils sortent, en fait, ils braquent la parfumerie, les usines Jean Patou. Jean Patou, c'était un célèbre parfumeur. Et à l'époque, les usines, on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'était à côté des Champs-Élysées. C'était à 2-3 rues des Champs-Élysées. Et eux se décident à braquer les usines Jean Patou. quand ils sortent de l'usine, c'est la nuit, il y a une patrouille d'hirondelles. Alors les hirondelles, c'était quoi? C'était des flics. Comme aujourd'hui, ceux qui sont en VTT, bon, bah, à l'époque, ils avaient des vélos de ville, normaux, avec des grandes caplines, là, comme ça. Et on les appelait les hirondelles parce que c'était la marque du vélo. La marque du vélo, c'était hirondelle. Bon, passe une patrouille de deux hirondelles, ils marchaient par deux. Et puis, ils sortent le sifflet, ils les voient sortir, évidemment. Et petit Louis, voilà, un peu sanguin, se retourne, envoie une rafale de titine, donc de mitraillette, et va tuer un des deux policiers. Il va être arrêté. Louis de Nantais, il va être condamné à mort et ça va être commué en perpète. Donc il va tomber en 1952, hein, ça remonte, et il va sortir en 1981. Et moi j'ai connu ce garçon, après sa peine il est venu s'installer en banlieue parisienne à Aubervilliers parce que dans les petites annonces du Nouvel Obs à l'époque, les longues peines passaient des petites annonces, voilà, pour rencontrer, enfin, correspondre avec des dames, en gros, voilà. Et il y avait une directrice d'école primaire d'Aubervilliers, la dite Paulette, qui avait répondu à cette annonce. Ils ont correspondu pendant des années et le jour où il a été libéré, ils se sont mis à la colle, ils se sont mis ensemble, voilà. Et Aubervilliers, tant mieux pour lui, puisque Aubervilliers était la ville, un des gros centres névralgiques, on va dire, de la pègre à Paris, encore aujourd'hui, de la criminalité. Hein. Je vais pas faire baisser l'immobilier, hein. C'est une des villes les plus criminogènes de France, c'est vrai. Et donc le petit Louis, il s'est retrouvé après au milieu de ses pères. Hein. Alors c'était le plus vieux, parce qu'il avait déjà 80 ans. Il y avait lui, il y avait les frères Madeleine, qui s'étaient évadés, qui étaient deux braqueurs, voilà, parisiens. Il y avait Louis la marmite en argot, ça veut dire le coffre, c'était un ouvreur de coffre. On l'appelait aussi Louis le fleuriste, parce que sa femme tenait un magasin de fleurs porte. Je pourrais vous en citer des dizaines. Dany le musicien, à qui on avait coupé la mauvaise jambe, à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Enfin voilà, des histoires, mais hallucinantes. Hein, des types qui ont des parcours et des histoires complètement folles. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, et ça, ce qui a disparu avec eux, c'est que c'était encore l'époque des cafés malfrats. Alors, où on rentrait, il y avait 1000 ans de prison au comptoir. Hein, voilà, en gros, vous pouviez additionner les peines de chacun. Donc, il y avait, à la Plaine Saint-Denis, il y avait un resto très célèbre qui existe toujours, mais dont le patron est mort récemment. Donc forcément la clientèle a un peu désertée, puis la clientèle a massivement disparu aussi, hein, on va bien le dire. Mais là voilà, c'était les nappes à carreaux, la bouffe à l'ancienne, les pieds de porc, les machins, les trucs. Bon. Et là vous aviez voilà, tout le milieu parisien, les gens de la banlieue sud, la banlieue est, la banlieue nord, parce que c'est comme ça, hein, ça a l'air un peu débile comme appellation, mais c'est des appellations d'origine contrôlée du milieu. Donc là vous aviez plein d'histoires, plein de gens, plein de contacts. Donc il y avait comme ça quelques phares dans la nuit malfrate à Paris, en banlieue surtout après. Et des anciens, voilà, qui avaient un langage fleuri, on était chez Audiard en permanence. Donc, c'est des types qui aimaient bien manger, on disait faire une bonne gamelle, qui aimaient bien boire un bon coup. Donc, c'était des repas très arrosés. Ils sont pour certains même actifs, hein. Alors, souvent, ce qu'on appelle une délinquance de vieux, c'est-à-dire, ils font du recel. Moi, je me souviens que le petit Louis, par exemple, à Noël, il me disait, ah, Jérôme, passe prendre un cadeau pour ta femme. J'aurais pas le raconté ici. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est ton cadeau, petit Louis? Je croyais qu'il m'avait fait un cake aux fruits. Non, on arrivait, il y avait des caisses de champagne, des caisses de parfum, des trucs comme ça. Je dis, mais d'où ça sort? Alors, en fait, c'était des voyous qui faisaient les braquages de camions de fret, hein, au moment de Noël. C'est la grande spécialité. On braque les camions qui transportent des ordinateurs, etc. Faire des cadeaux à la famille. Et les vieux voyous, souvent, étaient assistés par les plus jeunes qui leur donnaient deux caisses de champagne, deux caisses de parfum à vendre. C'est de la délinquance de vieux, ils faisaient un petit peu de recel, ils n'avaient pas sauté les comptoirs de banque à 88 ans pour les braquer. Donc bah voilà, pour faire un petit billet, ils ont souvent pas de retraite, hein, ces garçons, ils n'ont pas vraiment travaillé. Donc bah pour faire un petit billet, il allait vendre ses parfums et ses trucs. Alors moi, il m'aimait bien, il donnait un parfum à ma femme, on ne mettait pas nos empreintes dessus, je vous rassure, et on le jetait tout de suite. Mais, j'ai mis l'anecdote, et les mecs, par exemple, quand j'allais moi avec ma femme, par exemple, déjeuner chez le petit Louis, ils ne voulaient pas l'appeler par son prénom, ils l'appelaient Madame Jérôme. Parce que les vieux voyous, à l'ancienne, on disait jamais le prénom de la fille parce que c'était irrespectueux de s'adresser à la femme d'un ami avec son prénom. Ah, ça se faisait pas, c'était une forme de drague. C'était pas du tout Mathieu, c'était le contraire. C'était, voilà, il fallait dire Madame Jérôme pour pas l'offenser ou m'offenser moi, etc. Enfin bon, des histoires quand même surréalistes.
J'ai fait un tatouage au placard. Puis j'ai continué à en avoir, j'en ai partout. Mais c'est des anciennes modes, à l'aiguille. Ça avait été fait à Blida. Parce que j'étais en prison à Blida. 4 mois pour un coup de poing dans la gueule à un flic.
Un personnage très très haut en couleur, qui était entièrement tatoué à l'ancienne, parce qu'il était passé par les bataillons d'Afrique. Comme d'ailleurs les trois quarts des voyous de l'époque, et des Pierrot le Fou, et les Diohatia, etc. Les bataillons d'Afrique, c'était au moment du service militaire. On séparait le bon grain de l'ivraie. En gros, ça avait été institué par la Troisième République à la fin du 19e, et les gars avaient dit, bon, tous ceux qui ont un casier judiciaire au moment d'aller faire le service militaire, on les met dans un corps à part, pour pas qu'ils aillent contaminer les honnêtes jeunes gens qui vont venir. Et donc, ce corps à part, on appelait ça les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, le BATDAF. Et donc, tous les futurs voyous, tous les petits délinquants, allaient au service militaire dans le même truc. Alors, inutile de dire qu'ils se connaissaient tous en sortant, ça arrangeait pas l'histoire. Et le sport favori, c'était de se tatouer. Alors, à l'aiguille, hein, à l'ancienne, c'était pas les tatouages aujourd'hui à machine électrique et tout. Il y avait toute une, ce qu'on appellerait une onomastique du milieu, une grille de lecture. C'était une carte d'identité. Donc, vous aviez, plein de symboles qui permettaient de retracer le parcours du gars et de vérifier ses dires surtout. Parce que c'est comme ça que Petit Louis, par exemple, il avait fait carrière. Quand je lui ai dit, mais comment t'es rentré dans le milieu? Il me dit, quand je suis sorti du BATDAF, on m'avait donné des adresses. Les mecs m'avaient dit, quand tu sortiras, va à tel bar à Pigalle, va à tel autre bar, tu te présentes de ma part. Tu diras, je suis un copain de Dédé, de machin, on s'est connus en Tunisie au BATDAF, au machin, et tu te pointeras. Et pour accréditer ses assertions, c'est dire, ils montraient les tatouages, les mecs. Ça légitimait le discours. Et du coup, c'est comme ça que les mecs commençaient à faire leurs premiers pas là-dedans. Alors lui, comme il était petit, on l'a appelé Petit Louis, comme il venait de Nantes, Petit Louis de Nantais, hein, les mecs, ils ne cherchaient pas non plus très très loin pour faire des surnoms. Hein. Ce qui était drôle, c'est que c'est quand même lui qui m'a présenté à l'époque un des mecs qui était un des patrons de la cité des 4000 à la Courneuve. Donc l'autre bout du spectre criminel, c'est-à-dire des jeunes de quartier qui faisaient le shit, etc. Et un jour, Petit Louis m'a dit « Ah, faut que je te présente, mon pote, il tient la cité là-bas » Petit Louis, je me suis dit qu'il était plus tellement à la page qu'il avait un peu confondu avec un mec qui devait vendre de barrettes en bas de chez lui. Et puis, non, il m'a dit « Non, je l'ai connu parce que ce mec-là était tombé en prison pour 800 kilos de shit, hein, donc il avait un peu de surface, et il avait pris 7 ans, je crois. Et quand il était en prison, les mecs passaient dans les cafés au moment de Noël, faisaient une espèce de quête pour ceux qui étaient en prison, à Noël. Et Petit Louis, qui avait pas une thune, parce que Petit Louis, il était au RSA, enfin il avait 80 ans, c'était fini, hein, les histoires, à part les trois parfums et les deux bouteilles de champagne qui recélaient en douce, il avait pas une thune. Et sauf que sur les 800 balles qu'il touchait, chaque fois il donnait 500 euros à ce mec qu'il ne connaissait pas. Voilà. Chaque Noël pendant 5 ans. Et Petit Louis me disait oui, parce que moi je sais ce que c'est, j'ai fait 28 ans de prison, je sais ce que c'est que d'avoir un petit billet à Noël pour cantiner, pour machin. Donc, et quand ce mec était sorti, reconnaissance du cœur, comme quand on dit il n'y a plus de mental, les mecs de cité, ils n'ont pas la mentalité des anciens, ce qui n'est pas toujours vrai, il était venu se présenter à Petit Louis en disant bonjour monsieur, je vous remercie, vous m'avez assisté pendant des années, maintenant c'est à moi de vous mettre un petit billet pour améliorer votre ordinaire de retraité du crime. Et ils étaient devenus copains, et c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis un jour, malheureusement, ce garçon, il est décédé. Paulette était partie en maison de retraite. Il était tout seul et la nuit, il s'est tapé la tête contre la faïence sanitaire et il est mort. On l'a trouvé au petit matin. L'infirmière qui venait lui faire des soins à la maison l'a trouvé. Qu'on l'a enterré au cimetière d'Aubervilliers avec ce voyou de quartier. Moi, deux, trois vieux voyous. On n'était pas beaucoup, on était 4 ou 5. Mais le petit Louis, ça tombait là-bas. Bon, ça c'était l'histoire de Petit Louis le Nantais. Bon, donc il y avait ce monde-là encore en place. Moi, pendant des années, ça a rythmé aussi ma vie parce que c'est des gens qui vivent en décalé, qui vivent souvent la nuit, donc il faut s'adapter un peu si vous voulez les côtoyer, les voir, autrement que une interview d'une heure au bistrot. Faut aller avec eux. Alors, il y a pas forcément des boîtes, hein. Il y a aussi des bars glauques de banlieue à 1h du matin. Il y a, des parties de cartes un peu clandées. C'est tout cet univers-là. Moi, j'aimais bien. C'est le sirop de la rue de ma mère. Mais j'ai toujours bien aimé. Des fois, c'est glauque. C'est vrai qu'il y a des potes qui me disent « Mais comment tu fais pour traîner là-dedans depuis 25 ans ?» Alors que c'est souvent... Il faut pas rêver, je dis ça, mais c'est souvent anxiogène. C'est souvent zone, je veux dire, c'est pas forcément tout ce qui brille, hein. Le milieu, ils sont pas tous en smoking, dans des boîtes de nuit hallucinantes, avec des coupes de champagne et des super pépés au bras. Enfin, on n'est pas dans le casino, voilà, avec Robert Nereo et Sharon Stone tous les jours. Il y a des trucs vraiment, des bars merdeux au fin fond du 93, avec des sales trognes, des ambiances pourries. Ça peut aussi avoir cette tête-là, et ça a même souvent cette tête-là. Donc il faut, moi je sais pas, j'aime bien.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.